Merci d'écouter RFI Midi en temps universel. Il est 13h ici à Paris.
RFI Midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour à toutes et à tous. À la une, Kinshasa veut éviter un carnage à Goma dans l'est de la RDC. Déclaration du porte-parole du gouvernement congolais alors que des combattants du M23 soutenus par des militaires rwandais sont entrés dans certains quartiers de la ville. La frontière est fermée entre la RDC et le Rwanda. On y revient dans un petit instant. Ne rien céder face à l'antisémitisme. Déclaration du président français Emmanuel Macron. En ce jour anniversaire de la libération du camp d'extermination nazie d'Auschwitz. Une cérémonie internationale se prépare en ce moment sur place en Pologne. Une foule de déplacés palestiniens sur le chemin du retour vers le nord de la bande de Gaza. Après des accros dans l'accord de trêve entre Israël et le Hamas, le passage a finalement été débloqué par l'armée israélienne ce matin. À suivre aussi, un accord après un brusque bras de fer entre les États-Unis et la Colombie sur la politique migratoire de la nouvelle administration Trump. Focus sur DeepSeek, le ChatGPT chinois qui bouscule la Silicon Valley. Et puis l'impatience des 24 équipes qualifiées pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football avant le tirage au sort de la phase de poule. Ce sera à Rabat, au Maroc, à partir de 18h, temps universel.
Combattants du groupe armé M23 et des soldats de l'armée rwandaise. Ils sont entrés dans Goma, la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo.
Le ministre congolais de la Communication l'a confirmé. Le gouvernement de Kinshasa continue de travailler pour éviter le carnage, dit-il. Patrick Mouyaya invite les habitants de Goma à rester à l'abri. Alors que sait-on de la situation à l'heure qu'il est, Florence Maurice?
Eh bien, les hommes du M23 appuyés par des forces spéciales rwandaises ont fait leur entrée dans Goma par le nord et poursuivent depuis leur progression. En milieu de matinée, ils occupaient certaines positions dans la ville, notamment l'aéroport et le mont Goma où se trouve l'antenne provinciale de la télévision nationale. Actuellement, des tirs sont entendus aux environs du camp de Mugunga et vers Ndosho. Vers Sake, où se concentraient les affrontements ces derniers jours, c'est plus calme. Certains militaires FARDC ainsi que leurs alliés Wazalendo qui ont combattu sont toujours dans Goma. Près d'une centaine se sont rendus à la base de la MONUSCO. D'autres se seraient rendus à l'armée rwandaise, selon le porte-parole de l'armée de Paul Kagame. Des témoins rapportent en ville une grande confusion avec des scènes de pillage ainsi que des évasions de prisonniers de la principale prison de la ville. Le gouvernement continue de travailler pour éviter le carnage, estimait ce matin le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya. Il demande aux habitants de Goma, je cite, de rester à l'abri, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme et de pillage et, je cite encore, de barrer la route à la propagande du Rwanda.
Florence Maurice, j'ajoute cette réaction diplomatique. Le ministre belge des Affaires étrangères a appelé ce matin au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. On revient plus en détail sur la situation dans Afrique Midi dans une petite demi-heure. Ne pas oublier les horreurs d'Auschwitz, commémoration aujourd'hui de la libération du camp d'extermination nazi libéré par l'armée rouge il y a tout juste 80 ans. Une cérémonie officielle internationale aura lieu cet après-midi. Adrien Sarla, vous êtes sur place, hein, vous êtes sur le site d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Cérémonie en présence de dirigeants étrangers et d'une cinquantaine de rescapés aussi. C'est probablement le dernier anniversaire auquel ils pourront participer, ces rescapés, puisque la plupart sont aujourd'hui centenaires. Et c'est leur parole qui est mise en avant pour ces commémorations.
Tout à fait, hein, c'est le journaliste et historien d'ailleurs Myriane Tumski, internée 7 mois à Auschwitz, qui fera le discours d'ouverture de la cérémonie internationale qui commencera à 16h cet après-midi. Les délégations étatiques rejoindront les rescapés devant l'entrée du camp de Birkenau, dans la plus grande tente jamais dressée pour une telle cérémonie internationale, à en croire les organisateurs, puisqu'on y attend près de 3000 participants. Aucun des représentants nationaux, cependant, ne fera de discours pour laisser, comme vous l'avez dit, la pleine parole aux rescapés. Au total, les délégations de 53 États sont attendues, au premier rang desquels la Pologne et l'Allemagne, bien entendu, mais aussi la France ou le Royaume-Uni, qui sera représenté par le roi Charles III. On a appris ce matin la venue du président ukrainien Volodymyr Zelensky également, qui devrait profiter de l'occasion pour s'entretenir avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Lui s'est d'ailleurs déjà entretenu ce matin avec le premier ministre polonais Donald Tusk à Cracovie. Pendant ce temps, le président Andrzej Duda et le directeur du musée d'Auschwitz se recueillaient avec les survivants. Ensemble, ils ont déposé des gerbes et des bougies devant le mur de la mort dans le camp d'Auschwitz, symbole de la barbarie de ce camp, justement, en l'honneur des victimes de la Shoah.
Adrien Sarla, en direct du camp d'Auschwitz-Birkenau, correspondant de RFI en Pologne. Vos reportages auprès des rescapés, justement, mais aussi des guides de ce sinistre camp sont à retrouver sur RFI.fr. J'ajoute ces déclarations. Ces dernières heures, la chef du gouvernement italien d'extrême droite, Giorgia Meloni, a dénoncé la complicité du régime fasciste d'Italie avec les nazis dans la persécution des juifs. Grand absent des cérémonies, le président russe Vladimir Poutine a lui loué le rôle de l'armée soviétique à l'époque contre un mal terrible et total, je cite le président russe, qui félicite par ailleurs son homologue de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, réélu hier sans surprise et sans opposition pour un 7e mandat. Message de félicitations aussi du président chinois. L'Union européenne, de son côté, avait dénoncé une élection en forme de mascarade. Une marée humaine sur la route vers le nord de la bande de Gaza ce matin. Des centaines de milliers de Palestiniens sur le chemin du retour après avoir été bloqués hier par l'armée israélienne autour du stratégique corridor Netzarim, militarisé, ce corridor qui coupe la bande de Gaza en deux. Israël l'avait bloqué, Israël qui reprochait au Hamas de violer l'accord de trêve, de ne pas avoir relâché une civile israélienne qui aurait dû, selon l'État hébreu, être libérée samedi dernier. Benjamin Netanyahou a aussi exigé de savoir combien d'otages entre les mains du Hamas sont morts ou vivants. Le Hamas a finalement satisfait ses demandes et les déplacés gazaouis sont donc enfin autorisés à rentrer chez eux. Reportage à Gaza, Rami El-Megari avec Sami Bourlifa.
Évidemment que je souhaite rentrer chez moi. Mohamed Dahdouh est originaire de Gazaville. Dès le début de la guerre en octobre 2023, il quitte sa maison et tente de trouver refuge dans le sud de la bande de Gaza, relativement moins ciblée par les frappes israéliennes. Une vie de misère sous la tente. Régulièrement, il faut fuir. Des déplacements à répétition. Rafah, Khan Younes, Deir el-Balah, Nusayrat et plein d'autres endroits encore. Dans cette guerre, il a perdu certains de ses proches, sa maison, sa ferme, ses vaches et sa laiterie fromagerie. Tout ce qui lui reste tient dans un sac qu'il porte à bout de bras. Tôt ce lundi matin, il s'est mis en route avec sa famille. Et à cette heure locale, l'armée israélienne a enfin ouvert le passage et s'est retirée du centre de la bande de Gaza. Ils ouvrent, crie une femme. La joie, des sourires se dessinent sur les visages épuisés. Une foule dense se met en route. Des enfants, des vieillards, après l'exode forcé, le retour au milieu des ruines et du chaos. Mais nous sommes heureux, dit Samira. Cette jeune femme mesure sa chance. Notre maison n'a pas été détruite. Elle est endommagée, mais toujours debout. On a quatre murs et un toit au-dessus de notre tête. C'est mieux que de vivre sous une tente. Rami El-Merali, Gaza, Sami Bourlifa, Jérusalem, RFI.
Et après ce déblocage, le Hamas a salué une victoire contre les plans d'occupation de Gaza. Israël, de son côté, a mis en garde sur l'application stricte de l'accord de cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne et également au sud du Liban. Le Liban où le retrait de l'armée israélienne a été repoussé au 18 février, annonce des États-Unis médiateurs. Le gouvernement libanais a donné son accord. Ce retrait initialement prévu hier, des centaines d'habitants ont tenté de rentrer dans leur localité. L'armée israélienne a ouvert le feu, faisant 22 morts selon le ministère libanais de la Santé. Vers un assouplissement des sanctions européennes contre la Syrie, c'est au programme d'un conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, donc ce lundi à Bruxelles. Après la chute de Bachar el-Assad, le chef de la diplomatie française a évoqué une levée de certaines sanctions dans le secteur de l'énergie, du transport ou des institutions financières, avec en contrepartie, ajoute Jean-Noël Barrot, une transition politique qui associe toutes les Syriennes et tous les Syriens. La fin du bras de fer entre les États-Unis et la Colombie après un brusque coup de chaud hier. Bogota avait refoulé des vols militaires américains transportant des migrants colombiens expulsés des États-Unis. Le président Gustavo Petro était monté au créneau en s'indignant du traitement de ces migrants. Mais quelques heures plus tard, la Colombie a finalement accepté les conditions de rapatriement imposées par Washington et les États-Unis ont suspendu leurs menaces de sanctions douanières. Bogota n'avait en quelque sorte pas le choix, selon Mathilde Alain, spécialiste de la Colombie et maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine.
Il n'a pas le choix parce qu'il y a un déséquilibre important entre la Colombie et les États-Unis. Les États-Unis, c'est le premier partenaire commercial de la Colombie pour de nombreux secteurs. En fait, le café, les fleurs, qui sont des industries importantes. De toute façon, dans la relation avec les États-Unis au niveau commercial, la Colombie ne pouvait pas se permettre de faire face à une hausse des taxes importantes. Alors au début, c'était 25% qui était annoncé. Le bras de fer est devenu un petit peu plus dur et ensuite Trump a annoncé 50%, plus une suspension des visas à destination des Colombiens qui comprenaient aussi des menaces à l'encontre des fonctionnaires colombiens présents aux États-Unis. Donc forcément, la Colombie est en position de faiblesse. Et il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est qu'aussi les États-Unis comptent retirer un certain nombre de financements présents en Colombie, notamment sur les aspects liés à l'accord de paix. Donc ça va au-delà, bien sûr, cette forme d'agression états-unienne vis-à-vis des pays latino-américains.
Voilà l'analyse de Mathilde Alain, spécialiste de la Colombie avec Nicolas Roca. Une rentrée en mode dégradé à Mayotte ce lundi. Les écoliers, les élèves, en tout cas une partie, sont retournés à l'école un mois et demi après le passage du cyclone Chido qui a fait beaucoup de dégâts. Et avec un système de rotation pour cette rentrée, plusieurs établissements dévastés n'ont pas pu rouvrir. En France, le président du Rassemblement National a présenté ses vœux à la presse tout à l'heure. L'occasion pour Jordan Bardella de dévoiler ses priorités dans un paysage politique instable et avec un grand objectif, cela semble clair, Raphaël Delvolvé, il veut provoquer de nouvelles élections législatives.
Pour Jordan Bardella, plus que le gouvernement Bayrou, c'est le pays tout entier qui est plongé dans l'inertie.
Seul un retour aux urnes permettra en réalité de dégager un cap clair et de dégager une majorité stable.
Mais alors, le RN se prépare-t-il à une nouvelle censure dès le budget alors que le gouvernement négocie avec la gauche ? Comme en décembre dernier, Jordan Bardella entretient le flou.
La censure pour nous, c'est pas un jouet. Nous allons continuer nous apporter nos mesures et je suis pas certain que le gouvernement en sorte grandisse que de donner des gages au nouveau Front Populaire.
Parmi les propositions notamment, la suppression pure et simple de l'aide médicale d'État, le RN se raccroche à l'immigration, son thème de prédilection en pleine offensive du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Jordan Bardella s'évertue à le discréditer.
Il est condamné à être le ministre de la parole. Il n'a pas de majorité, il fait le choix de passer de la douce musique aux électeurs du Rassemblement National.
Bref, le RN s'opposait déjà avant, il continuera de s'opposer après, même sur les pendants les plus à droite du gouvernement. Un proche de la direction le confie, le parti est concentré sur 3 élections, 2 potentielles législatives cette année, les municipales l'an prochain et une toujours possible présidentielle anticipée.
C'était Raphaël Delvolvé. Vous connaissez ChatGPT, cet agent conversationnel qui participe à la révolution technologique du siècle, l'intelligence artificielle qui fait l'objet d'une véritable course à l'échelle internationale. Mais il n'y a pas que ChatGPT, Nathanaël Vitran. Un nouvel acteur chinois est venu ces derniers jours bouleverser le secteur.
Oui, retenez bien son nom, DeepSeek, recherche profonde en bon français, une start-up venue de Hangzhou qu'on pourrait présenter comme le ChatGPT chinois. Depuis qu'elle a été présentée au public la semaine dernière, la Silicon Valley ne parle plus que d'elle. D'abord parce que son modèle d'IA conversationnel rivalise avec celui des géants américains et les surpasse même dans ses capacités à résoudre par exemple des équations complexes. Ensuite parce que la start-up chinoise est parvenue à ce résultat impressionnant en utilisant des puces électroniques beaucoup moins performantes que ses rivaux américains et en dépensant beaucoup moins d'argent. Washington, souvenez-vous, a tout fait pour limiter l'accès des entreprises chinoises aux puces dernière génération. Pékin vient de prouver qu'il pouvait faire mieux avec moins.
Et il n'y a pas de limite à ce que peut faire DeepSeek ?
Alors si, bien sûr, comme toutes les IA, elle est imprégnée des biais de ses créateurs. Par exemple, si vous interrogez DeepSeek sur la situation des droits humains dans le Xinjiang, région où la Chine est accusée d'enfermer massivement la minorité ouïghour dans des camps de travail, eh bien elle vous répond que, je cite, « sous la direction du Parti communiste chinois, le Xinjiang est parvenu à la stabilité sociale, à la croissance économique, l'unité ethnique et à l'harmonie religieuse ». Circuler, il n'y a donc rien à voir. Reste qu'un conseiller du président américain a comparé DeepSeek à Sputnik, le satellite soviétique tout premier à être mis en orbite, qui avait déclenché une course à l'espace en pleine guerre froide. Une course qui s'est terminée avec un homme sur la Lune, il était américain, et la chute de l'Union soviétique 3 décennies plus tard. Bien malin qui saurait prédire, Charlotte, comment cette course-là se terminera.
Et en tout cas, DeepSeek a grimpé en tête des téléchargements gratuits sur l'App Store. Dossier signé Nathanaël Vitran.
Merci Charlotte Hydrac. Le prochain journal, c'est dans 3 quarts d'heure sur RFI. Et tout de suite, on va parler de l'actualité sportive. Bonjour Thomas Saint-Léger.
Bonjour Anne.
Il flotte un parfum de Cannes à Rabat aujourd'hui. Le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football aura lieu ce soir dans la capitale marocaine.
À partir de 18h temps universel, moment important pour les 24 sélections qualifiées. Pour l'organisation aussi, c'est l'occasion de donner un premier aperçu du savoir-faire marocain en vue de cette Cannes 2025 dont le coup d'envoi sera donné le 21 décembre prochain. Et si on regarde un peu plus loin, de lancer toute la séquence qui va jusqu'à la Coupe du Monde 2030 que le Maroc co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. L'ancienne internationale sénégalaise, aujourd'hui ambassadeur de la CAF, Eladji Diouf.
Cette Coupe d'Afrique, c'est pour les Africains. On se doit de montrer à tout le monde qu'on est prêt. On est là pour commencer la fête de 2030, la fête de la Coupe du Monde 2030. C'est pour ça qu'on se doit de se donner la main dans la main. Et je fais appel à tous les amoureux du football mondial de venir nombreux et que je demande aux Marocains aussi que les stades soient pleins. Que ça soit pas quand le Maroc joue, le stade est plein. Quand les autres jouent, ils ne sont pas là. C'est leur fête. C'est à eux de montrer au monde entier qu'ils sont prêts. Et pourquoi pas faire la meilleure Coupe d'Afrique possible, parce que la Côte d'Ivoire a mis la barre très haute et je crois que les Marocains sont capables, avec l'aide de tous les Africains et les amoureux du foot.
Eladji Diouf au micro d'Olivier Pron. Le tirage au sort de la CAN 2025, tous ces enseignements, on en parle avec Hugo Moissonnier et les consultants de Radio Foot International tout à l'heure à partir de 21h10 temps universel.
En France, Marseille rate l'occasion de se rapprocher du PSG en tête de la Ligue 1.
Les Olympiens restent à distance, 10 points de retard sur le leader parisien après une défaite logique 2-0 hier soir à Nice, qui d'ailleurs se rapproche du podium et de l'Ouest. Les Aiglons sont quatrième de cette Ligue 1 avec 33 points. Une très bonne opération pour l'un des buteurs de la soirée, l'attaquant international ivoirien Evan Guessant, avec nos confrères de DAZN.
Je savais que c'était un match important pour nous aujourd'hui, parce que quand on regarde le classement, on voit que si on gagnait ce soir, on pouvait faire un coup pour l'Europe. Donc voilà, il fallait être présent ce soir et j'ai simplement joué avec mes qualités et puis ça a payé, donc tant mieux. Durant les matchs européens, on n'a pas montré un bon visage cette saison, mais ça fait partie de la vie. On va en tout cas continuer à essayer de se qualifier et faire mieux les prochaines Coupes d'Europe. La saison, elle est en cours, on a des objectifs tous en commun. Je suis à fond avec mon club et on a des objectifs qui nous attendent.
Evan Guessant, 23 ans, l'une des révélations de cette saison, 9 buts déjà en Ligue 1, l'Ivoirien est 5e du classement des buteurs. Classement toujours dominé par l'attaquant anglais de l'OM, Mason Greenwood, avec 12 réalisations.
Enfin, en tennis, après sa victoire à l'Open d'Australie hier, l'Italien Yannick Sinner conforte sa première place au classement mondial.
Il devance assez largement son adversaire en finale à Melbourne, l'Allemand Alexander Zverev. L'Espagnol Carlos Alcaraz complète le podium alors que Novak Djokovic remonte, lui, à la 6e place. Premier Français Hugo Humbert, 15e. Chez les Dames, statu quo aussi au sommet du classement WTA. La Biélorusse Arina Sabalenka reste première devant la Polonaise Iga Świątek et celle qu'il a battue en finale en Australie, l'Américaine Madison Keys, réussit un très joli bond de la 14e à la 7e place.
Merci Thomas de Saint-Léger. L'actualité sportive est aussi sur internet rfi.fr. 13h19 ici à Paris et à Auschwitz.
RFI. Le monde à midi.
Il y a 80 ans, le monde découvrait l'ampleur de la Shoah, l'horreur de ce que le régime nazi avait infligé aux Juifs. au moment de la libération du camp par des soldats russes. Ce jour, le 27 janvier, a été choisi comme journée internationale de l'Holocauste et je vous propose de nous rendre en Israël où l'accent est mis sur la transmission de la mémoire. Michel Paul.
80 ans après, il ne reste plus que quelques survivants des camps de la mort.
Mon nom est Aaron Krell. J'ai survécu à Auschwitz. Je voudrais que vous vous rappeliez les derniers mots de mon frère, Avrom Tzvi. S'il vous plaît, ne m'oubliez pas.
Ce souvenir, ne pas oublier.
Je m'appelle Moti Ligvornik, je suis de la seconde génération, puisque mon père a survécu à la Shoah en France.
La transmission de la mémoire de la Shoah, c'est l'objectif que se fixent désormais des institutions, comme le mémorial de l'Holocauste Yad Vashem à Jérusalem.
Et moi, ça fait partie de ma vie. J'essaye de transmettre avec beaucoup de pudeur à mes enfants. On a des comportements encore, alors qu'on n'a jamais subi nous-mêmes la Shoah, et j'essaye de transmettre le savoir, mais sans toutes ces problématiques.
Et particulièrement cette période, l'éducation à la Shoah est sans aucun doute un des piliers fondamentaux de l'identité nationale israélienne. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Voilà, 80 ans après la découverte du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, cette journée de commémoration est aussi l'occasion pour nous de donner la parole à ceux qui travaillent au quotidien pour que personne n'oublie jamais. Bonjour Sophie Naoum.
Bonjour.
Vous faites partie de ces gens-là puisque vous recueillez depuis des années déjà la parole de rescapés du génocide, de survivants des camps de la mort. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce travail documentaire ?
Alors en fait, c'est une vaste question, mais il y a une quinzaine d'années, je faisais un documentaire sur le boxeur d'Auschwitz, Victor Young-Pérez, et à cette occasion, j'ai rencontré pour la première fois d'anciens déportés. Et en fait, j'ai fait un constat qui était finalement très naïf et qui était l'évidence même, c'est que ces rescapés de la Shoah étaient déjà très âgés. Jacques Altman, que j'ai rencontré à l'époque, avait déjà près de 80 ans. Et je me suis dit qu'on était sur les dernières années des derniers témoins et que mes enfants, quand il sera en âge de comprendre ou en tout cas de poser des questions, il n'aurait pas la possibilité d'avoir un témoin qui vient dans sa classe et voilà, d'avoir cette présence directe. Et donc, j'ai voulu pallier tant que faire se peut ce manque. Rien ne remplacera évidemment jamais Élie ou Ginette ou Esther, mais disons que j'ai voulu créer du lien entre ces nouvelles générations et ces témoins en créant un outil qui soit vraiment adapté, donc qui soit intime, humain. Je vais chez eux, ils me parlent évidemment de la guerre, mais aussi de leur vie avant, de leur petite enfance, de leur vie après. Donc on balaye toute leur vie dans un cadre comme ça, très chaleureux, très intime. Je passe beaucoup de temps chez eux. Et en fait, ensuite, je fais un montage assez court et efficace d'une dizaine de minutes. Donc ce qui m'a poussée à faire ça, c'était vraiment cette idée que il manquait cet outil peut-être plus moderne, cette vulgarisation, cette intimité, cette proximité qui pourrait peut-être permettre qu'ensuite des jeunes continuent à s'intéresser à cette histoire, en tout cas que ça pourrait servir d'accroche.
Vous pensez qu'il y a un risque de voir la mémoire s'étioler après la disparition des derniers survivants ?
Oui, bien sûr. Enfin, l'histoire s'éloigne. Bientôt, ça appartiendra au livre d'histoire, comme plein d'autres histoires avant. Donc, évidemment, il faut susciter l'intérêt chez les jeunes. Et moi, ce que j'essaye de leur faire passer comme message, c'est que ce que ces témoins transmettent, en fait, c'est pas le passé, c'est pas des histoires, c'est pas ils sont pas là pour qu'on pleure avec eux, qu'on pleure sur leur sort. Ils témoignent comme un cri d'alerte, en fait. Ils alertent les jeunes des dangers, de la haine. Voilà, ils expliquent jusqu'où l'homme peut aller. Et non seulement j'ai peur évidemment que la mémoire disparaisse avec eux, mais de toute façon je suis déjà très inquiète du présent et eux aussi. Donc on est déjà dans une situation où finalement cette mémoire et ces témoins, même s'ils sont encore là, moi je reçois toute la journée déjà des messages d'insultes, de révisionnistes, d'agressivité même par rapport à eux. Enfin, il y a un vrai verrou qui a d'ores et déjà sauté.
Vous nous parlez de ce cri d'alerte, j'aimerais qu'on écoute Victor qui s'est confié à vous. Lui a été arrêté avec sa famille et voici ce qu'il vous dit.
Les Allemands nous ont dit, vous allez, ne vous affolez pas, nous venons pour un simple contrôle d'identité, car la méthode des Allemands, c'était de faire croire, quand une situation difficile se présentait, de minimiser la gravité de la situation. Et donc, ils nous ont dit, pour que les gens ne résistent pas.
Minimiser pour qu'il n'y ait pas de résistance, ce sont des mots qui ont encore un écho aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, je pense qu'on est en plein dedans. Elie Buzyn disait autre chose, il disait, vous savez, moi, mon père avait lu Mein Kampf et il disait, ce que dit Hitler, c'est des bêtises, il le fera jamais. Et Elie disait, même mon père, qui a fini mort pendant la Shoah, n'y croyait pas. Et il disait, il faut prendre au sérieux les menaces, il faut arrêter le déni de réalité. Quand les gens ont pour projet de vous tuer, quand ils sont en situation de le faire, ils le font. Et pour revenir sur ce que dit Victor, oui, il y avait plein de techniques comme ça. Par exemple, il y avait, on m'a raconté plusieurs fois, des porte-manteaux avec des numéros à l'entrée de la chambre à gaz. Et on disait aux gens de choisir un porte-manteau et de mettre leurs affaires sur un porte-manteau et de retenir le numéro. Donc vous imaginez bien qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils n'allaient pas ressortir de la chambre à gaz. Tout ça, ce sont des techniques pour que les gens ne se rebellent pas et suivent les ordres, en fait. Voilà, c'était plein de ça tout le temps.
Vous nous parlez des messages que vous recevez, vous, aujourd'hui, d'insultes, de mots très durs, y compris concernant ces survivants qui vous parlent. En France, le nombre d'actes antisémites a augmenté de manière considérable, dans plusieurs autres pays du monde d'ailleurs, hein, depuis l'attaque terroriste inédite du Hamas le 7 octobre 2023 et depuis le début de la guerre menée par Israël à Gaza. Comment est-ce que vos interlocuteurs vivent cette situation ?
Extrêmement mal. Je veux pas du tout minimiser ou essayer d'être optimiste par rapport à ça. Ils sont effarés, ils sont dévastés, ils sont très inquiets, ils ont peur, ils voient leur cauchemar revenir et tous me disent qu'ils n'auraient jamais imaginé voir ça de leur vivant. C'est un constat terrible, c'est un échec terrible pour nous tous et moi j'ai vraiment honte par rapport à eux. Déjà, ils ont survécu, ce qui est en soi un miracle. Ils étaient faits pour mourir, ils ont survécu. Et puis après, ils ont été accueillis, d'ailleurs pas accueillis par des pays qui ne voulaient pas d'eux, qui ne voulaient pas entendre leurs histoires, qui ne les ont pas aidés. Malgré tout, ils ont été de l'avant avec une dignité, une élégance incroyable, un courage inouï. Ils ont été incroyables. Moi, je n'ai pas de héros dans la vie à part eux parce que vraiment, je trouve que c'est une prouesse ce qu'ils ont construit après la guerre. Certains ont fait médecine, certains sont devenus avocats. Ils se sont battus pour l'humain toute leur vie. Ensuite, sur le tard, parce que la parole a été très compliquée, ils se sont mis à témoigner tard dans leur vie. Et puis, ils ont consacré leurs dernières années de leur vie à ça. À
oui, c'est ça, c'est important ce que vous nous dites. C'est que la parole, elle n'a pas toujours été évidente. Ça, on le constate, par exemple, en écoutant Guy dans l'une de vos vidéos.
J'ai parlé avec mon frère et on a discuté chaque fois. On a dit, est-ce qu'on parle ou on ne parle pas? Mon frère aîné, il a dit, non, on ne parle pas. Pour la simple raison, ça leur fera de la peine. Que c'est inutile. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'une situation pareille?
Est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui, Sophie Naoum, de faire parler les survivants? Est-ce que tous veulent raconter ce qui leur est arrivé?
Moi, je ne force personne et c'est toujours volontaire. Évidemment, j'essaye jamais de convaincre personne. À la fin de leur vie, oui, ils ont envie quand même de laisser des traces. Leur famille leur demande en général. Mais il faut savoir que cette parole a été extrêmement difficile. Déjà parce qu'au retour de la guerre, on les a traités de fous, de menteurs. On ne les croyait pas. Ou alors de collabos. Enfin, ou alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour vous en sortir? Donc, il y a eu déjà une suspicion envers eux. On ne voulait pas les entendre. La France voulait vivre, être heureuse. C'était la réconciliation nationale. Donc, ils sont arrivés comme un cheveu sur la soupe. Après, évidemment, il y avait toutes ces douleurs où il a fallu aller de l'avant, construire une vie en essayant de faire ça de côté, mais de laisser ça de côté, même si ça revenait systématiquement dans les cauchemars. Mais en tout cas, ils ont été de l'avant. Et puis, c'est tard qu'ils ont réussi à parler. En gros, après la sortie du film Shoah ou après le discours de Jacques Chirac au Valdiv en 95, pas vraiment beaucoup avant. Donc aujourd'hui, oui, ils ont envie de parler, mais ils voient bien que leur parole ne sert pas à grand-chose. Et c'est ça qui est tragique.
À qui ils s'adressent leur témoignage, justement ?
Écoutez, ils ont espéré toute leur vie pouvoir expliquer aux jeunes, éduquer les jeunes pour que ça n'arrive plus jamais. Voilà, et on a crié, on a martelé « plus jamais ça » comme un mantra en se disant que ça allait suffire. Et puis le documentaire de long métrage là que je viens de finir sur les derniers d'Auschwitz se conclut par la phrase de Robert Wachmann qui dit « pendant des années on a dit plus jamais ça, et ben plus jamais ça, c'est pas garanti ».
Je vous remercie beaucoup Sophie Naoum d'avoir été en ligne avec nous et j'indique à nos auditeurs que votre travail, les entretiens que vous ont accordés les survivants en attendant donc ce long métrage, des extraits sont disponibles sur le site lesderniers.org. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Vous restez avec nous sur RFI, on se retrouve dans une minute maintenant pour l'actualité africaine. Et puis je profite de ces quelques secondes pour vous dire que vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site rfi.fr et sur notre application RFI Pure Radio.
tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Elle avait 18 ans, elle venait de passer son bac quand elle est arrêtée et déportée parce que juive. Pour les 80 ans de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, la parole de Judith Elkan Hervé. À 99 ans, elle témoigne pour transmettre la mémoire vive de la Shoah.
De vive voix, avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU, sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amard.
Une spéciale seule en scène, Limbo de Victor de Oliveira au Théâtre de la Colline et La France Empire en un mot de Nicolas Lambert au Théâtre de Belleville. Deux pièces qui interrogent la mémoire de la colonisation, celle du Portugal et celle de la France.
Sur le Pont des Arts avec Nathalie Amard, du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.